Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Tarbes et très heureux de vous rejoindre où que vous soyez. Nous sommes en direct de la cathédrale Notre-Dame de la Cède. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Mathias.
Mathias Terrier et Anne-Rose Jankovic vous proposent cette retransmission avec Radio Présence pour que nous puissions vivre ensemble cette messe d'action de grâce de Mgr Nicolas Brouvet, arrivé il y a 9 ans dans le diocèse de Tarbes et Lourdes et qui est dorénavant envoyé vers le diocèse de Nîmes, Alès et Uzès. Anne-Rose, on a toujours le cœur un peu partagé parce que c'est une messe d'action de grâce, de merci, de remerciement, et en même temps, il y a un peu de déchirement parce que c'est un pasteur qui nous quitte.
Et oui, on laisse notre pasteur s'en aller. Alors, on est heureux pour le diocèse de Nîmes qui l'accueille. Évidemment, il y a beaucoup de reconnaissance dans notre cœur. Et puis, ben, on laisse celui qui a été notre pasteur. Donc, on le laisse partir en ayant toute confiance en l'Esprit Saint qui va nous envoyer à sa suite un nouveau pasteur. Voilà, on est rempli de reconnaissance, de confiance. Mais on a un petit peu de tristesse, évidemment, parce que c'est notre père qui s'en va.
Voilà, alors nous n'allons pas au cours de cette retransmission vous énumérer tout ce que Mgr Nicolas Brouvet a pu faire avec les prêtres, avec tous ceux qui, laïcs engagés, consacrés, religieux, religieuses, tout ce qui a pu être accompli en termes pastoral, mais nous mettrons quand même l'accent sur tel ou tel aspect de son action, parce que tout évêque, tout pasteur a sa sensibilité, si je puis me permettre, dans le meilleur sens du terme. Donc on essaiera de faire tout ça. D'ailleurs, je renvoie vers le bulletin diocésain qui vient de sortir, le bulletin diocésain du diocèse de Tarbes et Lourdes, parce que il donne aussi quelques éléments saillants de cette pastorale.
Oui, puis on y trouve l'édito de Mgr Brouvet, un édito d'au revoir, un édito d'action de grâce. Voilà, c'est ainsi que Mgr Brouvet quitte le diocèse de Tarbes et Lourdes, vraiment en action de grâce, en remerciant les diocésains pour tout ce qu'il a pu vivre ici pendant ces 9 années.
Il a dû appréhender une réalité assez complexe dans ce diocèse de Tarbes et Lourdes, parce qu'il y a du rural, il y a vraiment Tarbes qui constitue une agglomération urbaine conséquente, et puis Lourdes. Donc des réalités très très différentes les unes des autres.
Voilà, et puis il a pris le temps, on s'en souvient, au début de son épiscopat pour s'imprégner de cette culture bigourdane, du terroir. C'était pas une culture qui lui était familière en arrivant, mais il a pris le temps de s'en imprégner pour ensuite insuffler ses orientations pastorales dont on parlera au cours de cette retransmission.
Oui. Alors bon, là nous assistons à la procession d'entrée avec ce beau chant qui accompagne les prêtres qui entourent Mgr Brouvet, les prêtres qui viennent vénérer l'autel qui va accueillir la célébration eucharistique que nous vivrons ensemble en direct de cette cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes.
Esprit de feu Seigneur, louange à toi. Tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
amen.
La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Eh bien, nommé évêque de Nîmes, c'est la dernière messe que je célèbre ici dans cette cathédrale. Et c'est une messe d'action de grâce. Je l'ai célébrée hier à Lourdes. Mais c'était évident qu'il fallait aussi la célébrer ici, dans cette cathédrale qui a été mon siège épiscopal. Et j'aimerais vous remercier d'être là. Je remercie aussi les auditeurs de Radio Présence qui écoutent à la radio, que je salue aussi. Action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné de vivre pendant ces 9 ans et demi ici, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Mais pour tout ce qu'il m'a donné de vivre aussi avec vous, pour tout ce que nous avons fait ensemble, construit ensemble, pour la grâce que nous avons reçue du Seigneur, les uns à travers les autres. Un évêque n'est jamais un évêque tout seul. C'est un évêque qui est envoyé à des fidèles, à un peuple. Et peut-être que je vous ai apporté des choses, mais en tout cas, moi j'ai reçu de nombreuses grâces à travers vous, par votre fidélité, par votre témoignage de foi, par votre écoute de la parole de Dieu, par votre désir de vivre à la suite de Jésus. Et de tout cela, je vous remercie. Eh bien, ayant vu la grâce à l'œuvre, nous rendons grâce par notre prière, par cette première prière, par cette première action de grâce, qui est la célébration de l'Eucharistie, la célébration de la messe. Au début de cette célébration, nous remettons en paix devant le Seigneur. Nous implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions fait de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le cœur, avec nous, le vicaire général, vous le connaissez, l'abbé Antoine Mérillon, évidemment. Il y a deux prêtres que vous connaissez moins, c'est le père Dominique N. Barta, qui est curé de Trie-sur-Baïse. Levez-vous, père. Et puis le père Isidore. Alors, le père Dominique N. Barta vient de Centrafrique, et le père Isidore vient d'arriver juste cette semaine du Sénégal. Bienvenue, père. Je crois que je n'ai pas présenté le père Paul Ginesté, qui est bien connu dans notre diocèse. Merci, père, d'être là.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? Parole du Seigneur.
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants.
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants.
J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière.
Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre.
De la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai trouvé la tristesse et l'angoisse.
J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Seigneur, tu es je marche en ta présence sur la terre des vivants.
Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants.
Tu as sauvé mon âme de la mort. Garde mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Parole du Seigneur.
Nous sommes au cœur de cette liturgie de la parole, en direct de Tarbes et de la cathédrale Notre-Dame de la Cède. Et avec Anne-Rose Jankovic, nous vous proposons cette retransmission pour une messe d'action de grâce qui a déjà été vécue à Lourdes hier pour Mgr Nicolas Brouvet, qui est nommé à Nîmes et qui quitte le diocèse. Et qui, ici, dans sa cathédrale, souhaitait évidemment, puisque c'est son siège épiscopal depuis 9 ans, souhaitait vivre ce temps d'action de grâce que nous vous partageons aujourd'hui.
Et la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.
Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Au dire des gens, qui suis-je ?» Ils lui répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pierre venait de faire une magnifique profession de foi. Tu es le Christ. On sait que dans l'évangile de Luc et de Matthieu, ce n'est pas le cas de Marc, mais dans l'évangile de Luc et de Matthieu, Jésus lui avait répondu que ses paroles étaient vraiment inspirées par le Père. Jésus est le Christ, le Messie attendu par Israël, et Pierre l'a compris. Et en Luc et Matthieu, il va même jusqu'à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est vraiment beau de voir le chef des apôtres faire une telle profession de foi au milieu d'une sorte d'incrédulité des auditeurs de Jésus. Et Pierre marche derrière le Christ. Il s'est mis à sa suite avec les apôtres. On connaît le récit de la vocation de Pierre. Il a laissé sa barque, son père, toute son existence pour suivre Jésus. Mais quand le maître parle de ses souffrances à venir, de sa passion et de sa résurrection, Pierre n'est plus d'accord. Ce n'est pas l'image qu'il a du Messie. Ce n'est pas l'image qu'il a de sa mission, la mission de Jésus. Et disons-le, du combat que Jésus devrait mener. Ce n'est pas l'image qu'il a de la victoire que le Messie devrait remporter. Ce n'est pas l'image de la victoire que Pierre imagine pour rétablir le royaume d'Israël. Pierre veut bien du Christ, mais pas du mystère de la croix. Pourquoi cet évangile nous est-il remis régulièrement devant nos yeux ? Pour que nous nous interrogions nous-mêmes et que nous méditions sur ce refus de Pierre. Tout simplement parce que ce refus pourrait être le nôtre. La suite de Jésus, oui. Le mystère de la croix, non. Il y a là une forme du combat spirituel qui est à l'œuvre dans notre vie chrétienne et dans chacune de nos vies chrétiennes. Il va falloir que nous suivions le Seigneur en passant d'une foi chrétienne sincère, profonde, loyale, à la suite de Jésus, mais dans le mystère de la croix aussi. Je m'explique. Il est normal que dans une première partie de notre vie spirituelle, nous mettions des choses en place pour le Seigneur, et c'est tout à notre honneur. On va à la messe, bien sûr, on prend un rythme de prière, on s'engage avec générosité dans des activités paroissiales, caritatives, on s'engage dans des mouvements, on s'engage dans des groupes de réflexion, on fait vivre l'Église, on témoigne de sa foi, on la nourrit, on cherche aussi à la transmettre. On aime l'Église, on aime le ministère des prêtres, on soutient les initiatives de la paroisse, du diocèse, du pape, et tout cela est infiniment précieux. Tout cela nous fait grandir en sainteté. On s'est mis à la suite du Seigneur avec zèle, de façon vraiment volontaire, en engageant sa liberté. Mais au bout d'un moment, il peut y avoir une forme de fatigue, de démotivation, de découragement même. Des combats personnels reviennent sans cesse. Des initiatives dans lesquelles on s'était beaucoup investi, se sont soldés par des échecs ou par des résultats décevants. Nos enfants ont abandonné la foi qu'on avait eu soin de leur transmettre. La messe ou la prière ne nous donne plus les joies des premiers temps. Le regard de foi qu'on avait sur les personnes ou sur les événements disparaît au profit d'un regard plus humain, plus mondain, parfois plus cynique. On peut même être déçu par l'Église, par ses ministres, par ses fidèles. On peut être déçu de soi-même, finalement. Et dans ces moments-là, on ne sait plus très bien comment soigner cette déprime spirituelle, cette impression de fatigue, cette impression de déjà-vu qu'on ne parvient pas à renouveler. On voudrait faire quelque chose et prendre une initiative, mais on manque de force. On manque d'idées neuves pour se remettre en marche. Souvent, frères et sœurs, ces moments-là sont un temps favorable dans notre existence. On peut bien sûr tout abandonner, lâcher sa vie de foi, lâcher son regard théologal sur la réalité et passer à autre chose. Mais on peut aussi saisir ce moment, tôt se laisser saisir par le Seigneur dans ce moment de grande faiblesse spirituelle, pour lui permettre d'intervenir avec puissance dans notre vie. Nous avons perdu nos appuis habituels. Nous allons apprendre à ne plus nous appuyer que sur lui. Et là, nous entrons dans le mystère de la croix, qui est un mystère de dépouillement précisément, mystère de dépouillement personnel de tout ce qui nous tenait attaché à nous-mêmes, nos projets, nos résultats visibles, la satisfaction personnelle que nous en retirions à nos yeux et aux yeux des autres, l'image même que nous nous faisions de notre sainteté, de notre progrès dans la vie chrétienne. Dans ces moments-là, si nous l'acceptons, nous allons faire l'expérience d'un décentrement pour faire entrer Jésus au centre. Nous allons quitter une vision très volontariste de la vie baptismale et faire l'expérience de l'abandon confiant pour laisser le Seigneur agir en nous, pour laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Nous allons moins conduire qu'accepter d'être conduits par le Saint-Esprit. Cette transformation, cette conversion qui nous fait passer à travers le feu purificateur de l'Esprit-Saint, peut être déclenchée par une maladie, par un échec, par un moment plus difficile de notre histoire personnelle, peu importe. Cela ne veut pas dire que Dieu a voulu cet échec ou cette perte, mais c'est le moment favorable pour une rencontre plus personnelle, plus vivante avec lui. Privé d'une forme de confort spirituel, privé de nos repères, privé de nos appuis habituels, les conditions sont réunies pour mettre de manière nouvelle notre espérance dans le Seigneur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ma croix, c'est notre croix personnelle. Ce sont ces périodes de fragilité où nous pouvons nous révolter contre Dieu, tant la souffrance est insupportable, est injuste. Mais ce peut être l'occasion d'un profond dépouillement de son moi, de son ego, pour se remettre plus authentiquement à la suite du Seigneur. Voilà le sens de cette conclusion de l'Évangile. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est toujours là. Parce que Dieu nous tend la main. Y compris si nous sommes dans le brouillard ou dans la nuit et que nous ne voyons plus rien, Dieu est là et il nous tend à la main. C'est à nous de la saisir comme des pauvres. La croix, c'est l'instrument par lequel Jésus a porté nos refus de Dieu. Il a porté nos noms à Dieu pour nous réconcilier avec le Père des cieux. La croix, c'est l'instrument par lequel nous sommes sauvés de nos tentations de vivre pour nous, affranchis de Dieu, débarrassés de Dieu. Et c'est par la croix que Jésus annonce son royaume. Non pas de manière triomphale, par la conquête d'un pouvoir terrestre, comme le pensait saint Pierre, mais en descendant dans nos fragilités, en descendant dans nos zones d'ombre, dans nos échecs, dans notre mort, et en nous proposant de partir de là pour rejoindre à sa suite la maison du Père dans la lumière et la ferveur du Saint-Esprit. Nous le savons bien, Pierre en fera finalement l'expérience. Un autre te mettra ta ceinture pour aller là où tu ne voulais pas aller, lui dira Jésus après la résurrection sur les bords du lac de Tibériade. Pierre passera par ce dépouillement intérieur et cet abandon jusqu'à livrer sa vie pour le Christ, montrant ainsi à l'Église et à chacun d'entre nous le chemin de sa sanctification, de l'accomplissement de notre baptême. J'aimerais rendre grâce avec vous pour tout ce que j'ai vécu dans notre diocèse et dans notre cathédrale. J'ai exprimé hier à la grotte de Lourdes mon action de grâce pour tant de merveilles que le Seigneur a faites dans notre diocèse. Mais ici, dans cette cathédrale qui est le siège de l'évêque, je pense particulièrement à tous ces moments de grâce que nous avons vécus. Je pense aux solennités de Noël, de Pâques, de la Toussaint, de la Pentecôte, avec toute la joie que nous avons eue à célébrer ensemble le Seigneur vivant et glorieux. Merci pour les chants, la louange, la méditation de la parole de Dieu, l'accueil de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre communauté. Merci pour les baptêmes et les confirmations d'adultes. Merci pour les chants de la chorale diocésaine, pour les fidèles du diocèse rassemblés dans cette cathédrale. Je n'oublie pas les obsèques des prêtres. Merci pour les messes chrismales si ferventes, si revigorantes pour notre communion diocésaine au moment de fêter le Triduum pascal. Merci aux fraternités de Jérusalem qui ont si bien animé ces célébrations et qui assurent jour après jour le service de la prière pour tout le diocèse. Merci à la chorale diocésaine et à Marianne Trisac. En disant merci pour ce qui a été vécu à la cathédrale, je pense aussi à tous les beaux moments passés à la maison Saint-Paul. Ils sont innombrables, mais je pense surtout au rassemblement de l'année de la mission, aux rencontres annuelles avec les équipes d'animation paroissiale, aux haltes spies des catéchistes, aux messes de rentrée de l'enseignement catholique, aux soirées avec les couples, aux rencontres avec les jeunes, et en particulier aux vacances dans la joie. Je pense à toutes les réunions avec les prêtres, les conseils, les différents services. Je pense aux étudiants de la colloque et aux jeunes pros qui ont mis de la jeunesse et de la vie à la maison diocésaine. Voilà, je tends ce merci à tous les auditeurs de notre radio aussi, qui fidèlement eh bien, suivent ce qui se passe, à tous ceux qui sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui sur le site se tiennent au courant et encouragent notre vie diocésaine. Eh bien, que le Seigneur soit béni pour ces lieux de grâce, pour ces moyens de communication. Que le Seigneur soit béni, parce que c'est lui qui conduit notre Église dans la lumière du Saint-Esprit. Amen.
Voilà, on l'a entendu, Mathias Terrier, toutes les raisons pour lesquelles Mgr Brouvet rend grâce aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il s'en est passé des choses dans cette cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Il a évoqué l'année de la mission, les rencontres avec les jeunes étudiants, les jeunes pros qui ont aussi fait vivre et donné un souffle à la maison diocésaine, à la maison Saint-Paul. Il s'en est passé beaucoup de choses dans cette cathédrale. Et ce sont que des raisons pour lesquelles bien, les diocésains aujourd'hui sont là pour entourer Mgr Brouvet, pour rendre grâce avec lui. Et tout ça, ça a rendu notre église diocésaine plus forte. Voilà, on laisse Mgr Brouvet s'en aller avec tous ces souvenirs qui ont marqué ces années, cette insufflation pastorale, voilà, ce souffle pastoral dans le diocèse.
Oui, 9 années, Anne-Rose, durant lesquelles Mgr Brouvet a eu quand même quelques défis importants à relever quand il arrive en 2012, 11 février, il est nommé un 11 février, la fête Notre-Dame de Lourdes. Aussitôt, il vit une inondation au sein du sanctuaire de Lourdes, et puis une deuxième en 2013, en juin 2013. Donc, des défis déjà à relever, puis après des défis, on en parlera au plan du territoire lui-même des Hautes-Pyrénées.
Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous présentons au Seigneur toutes nos intentions de prière, pour notre diocèse, pour l'Église entière, pour le monde.
Seigneur éternel et ton amour,
Seigneur éternel et ton amour, regarde-nous dans ta bonté.
Prions pour notre Église et spécialement pour Mgr Nicolas Brouvet, que le Seigneur vienne le combler au centuple pour tout le bien qu'il a semé dans notre diocèse et lui donne de continuer de semer largement dans son nouveau diocèse de Nîmes. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables politiques et économiques, que leurs paroles soient en accord avec leurs actes, comme nous y invite l'apôtre Jacques. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur éternel et ton amour, regarde-nous dans ta bonté.
Prions pour les personnes et les peuples qui souffrent de violence, de misère, de maladie. Dans leur chemin de croix, que le Christ a parcouru le premier, qu'ils fassent confiance au Seigneur et retrouvent force et espérance. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur éternel et ton amour, regarde-nous dans ta bonté.
Prions pour tous ceux qui prennent des responsabilités dans nos paroisses, notamment les catéchistes, qu'ils témoignent avec joie de leur foi et soient missionnaires auprès de ceux qui habitent nos quartiers et nos villes. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur éternel et ton amour, regarde-nous dans ta bonté.
Oui, Seigneur, regarde-nous dans ta bonté. Écoute toutes les prières que nous t'adressons en ce jour et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Anne-Rose Jankovic, nous sommes en direct de Tarbes pour cette messe d'action de grâce. Monseigneur Brouvet nous quitte. Il part, je crois, dès aujourd'hui pour Nîmes, où il sera installé très prochainement comme évêque.
Effectivement, il sera installé samedi prochain, le 18 septembre, à 15h30. Une célébration d'ailleurs que vous qui nous écoutez, auditeurs, vous pourrez suivre en direct via la chaîne KTO. Voilà, c'est aussi un moment que nous pourrons suivre pour être en communion avec lui, hein, et en communion avec le diocèse de Nîmes qui l'accueille.
Oui. Diocèse de Nîmes qui sera pour lui tout différent de ce qu'il a vécu dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, dont nous disions qu'il est rural, ce diocèse de Tarbes-et-Lourdes, une belle ruralité avec un patrimoine magnifique, patrimoine naturel exceptionnel s'il en est, les Pyrénées et puis toute la plaine, et puis également une réalité urbaine avec Tarbes et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Monseigneur Brouvet, il y a une action qui s'est effectuée dans l'ombre dont nous ne parlons pas assez souvent, c'est tout le travail qui a été fait à son initiative pour la réorganisation de son diocèse.
Oui, ça c'est très important parce que je vous disais tout à l'heure qu'il a pris le temps quand il est arrivé au début de son épiscopat pour connaître le terrain, le territoire. Il a fait des visites pastorales dans tous les secteurs du diocèse. Et puis, il s'est imprégné de cela pour proposer de nouvelles orientations pastorales au diocèse en redécoupant le diocèse en six doyennés et parallèlement à cela, en organisant tout un travail avec les curés et les EAP, les équipes d'animation paroissiale, pour redonner un souffle, un élan missionnaire dans les paroisses en passant par les curés, par les EAP. Et ce travail n'est pas terminé, hein. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que ce travail a commencé et il va continuer avec les prêtres et leurs équipes en paroisse. Voilà, ça c'est très important parce que Monseigneur Brouvet nous a appris ça, c'est un peu son héritage, c'est que les orientations elles sont données par l'évêque, mais après elles sont reçues en paroisse et c'est en paroisse qu'elles se concrétisent, hein, sur le terrain au quotidien.
Et ce que vous décrivez là n'est pas tant une réforme de structure que des moyens qui se sont donnés les uns et les autres sur le terrain pour de nouveau être appelants, faire en sorte que des personnes s'engagent au service de l'Église, que ce qu'on appelle parfois les équipes d'animation paroissiale puisse se revitaliser. C'est tout ça, l'enjeu.
Voilà, c'est tout ça, avec de nouvelles personnes qui ont été appelées, avec un nouveau discernement qui a été fait par les curés pour qu'ils voient en chacun des paroissiens des possibilités, des talents peut-être qui étaient cachés. Voilà, appeler chaque personne selon ses talents, selon ses envies, pour qu'elle puisse s'investir dans la paroisse et travailler avec le curé au service du diocèse.
Voilà, nous voulions vous partager un des aspects de l'action pastorale de Mgr Nicolas Brouvet dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, dans cette Bigorre qu'il a tant aimée, qu'il aime toujours et qu'il aimera, je pense, toute sa vie.
Je crois qu'il a bien profité de nos belles montagnes.
Et donc là, nous sommes au cœur de cette messe que nous vivons ensemble, messe d'action de grâce en direct de cette cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Et après avoir vécu cette liturgie de la parole tous ensemble, nous entrons maintenant dans le temps eucharistique, c'est-à-dire ce qui est central dans la foi de tout un chacun, dans notre foi. Nous allons vivre ensemble la messe à proprement parler.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur.
Et le tournons vers le.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Saint, 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 le Seigneur.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Te confie en particulier Constance et Baudouin de la Brosse qui se sont mariés récemment. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
en lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Bénis seulement ma parole et je serai béni.
Seigneur Nicolas Brouvet, qui fut évêque de Tarbes-et-Lourdes depuis 2012, le 11 février 2012, part désormais vers le diocèse de Nîmes, Uzès et Alès. Après 9 ans passés dans ce diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et avec Anne-Rose Jankovic et puis les moyens techniques mis à disposition par le réseau Présence, eh bien, nous retransmettons cette messe d'action de grâce en direct de Tarbes. Anne-Rose, nous disions que Mgr Brouvet avait mené des actions qui, pour un certain nombre, sont assez invisibles. C'est notamment les réformes de structure, mais totalement au service, finalement, de la vitalité, de la capacité d'être appelante pour une église diocésaine. Ce qu'on sait aussi, c'est toute l'attention qu'il a portée à la pastorale des jeunes. Parce qu'on le voyait, alors là, notamment en vélo, tous les étés, avec toute la jeunesse.
Au camp VTT, à Notre-Dame-des-Garrison.
Oui, oui, c'était magnifique. Mais bon, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il a créé un service de pastoral pour les jeunes, extrêmement dynamique.
Service diocésain des jeunes qui est extrêmement dynamique, effectivement. Et les jeunes qui sont en synode depuis le début de cette année 2021. Voilà, donc ce synode va se poursuivre, évidemment. Mais Mgr Brouvet a eu, c'est vrai, une attention particulière aux familles et aux jeunes. C'est son charisme, pourrait-on dire. Et je crois que les jeunes lui rendent bien. Parce que voilà, il y a tous ces jeunes qui sont présents à la Maison Saint-Paul, dont on parle tout à l'heure, qui donne vraiment de la vie. Et puis ces jeunes qui sont pris en charge dès l'âge du patronage et puis ensuite par le service diocésain des jeunes pour les camps collégiens, au pèlerinage diocésain, au camp VTT, dans divers week-ends tout au long de l'année. Enfin, nos jeunes sont gâtés dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et quand ils sont plus grands, eh bien, ils deviennent jeunes professionnels et ils se mettent là encore au service du diocèse. Tout ça, c'est vraiment une inspiration de Mgr Brouvet, et ça va continuer avec ce synode des jeunes qui ne va pas s'arrêter. Voilà, Mgr Brouvet s'en va pour Nîmes, mais le service diocésain des jeunes poursuit cette aventure, et puis c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche. Donc voilà, l'élan est donné et ça va continuer. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important dont on peut garder souvenir. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans l'action pastorale de Mgr Brouvet. Tout à l'heure, il présentait les prêtres qui sont présents aujourd'hui. Il a nommé le père Dominique Mbarta, le curé de Trie-sur-Baïse. Alors, c'est important aussi de dire tout le travail qui a été fait pour accueillir ces prêtres. Alors, on a l'habitude de dire non pas étrangers, mais venus d'ailleurs. Voilà, c'est ainsi qu'on parle d'eux dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Tous ces prêtres Fidei Donum qui viennent dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Mgr Brouvet a fait un grand travail pour savoir les accueillir. Comment est-ce qu'on accueille ces prêtres? Comment on fait la transition entre leur diocèse d'origine, leur culture ecclésiale, et puis celle qu'ils découvrent ici en Bigorre? Voilà, ça c'est très important, parce que ces prêtres qui arrivent ne sont pas parachutés dans un coin de Bigorre, tout seuls, laissés à l'abandon. Non, ils sont accueillis, ils sont accompagnés, et ça c'était très important pour Mgr Brouvet. Voilà, ça porte des fruits petit à petit.
Et pour un certain nombre, ils se sont révélés comme d'excellents, de magnifiques témoins de la foi, parce que leur histoire personnelle parfois aussi est douloureuse, dans le sens où ils viennent de contrées ou de pays où les choses ne sont pas si simples que chez nous pour vivre sa foi et l'exprimer.
Voilà, ce sont des cultures et des expériences de vie qui diffèrent beaucoup de ce que nous on connaît ici en Bigorre.
Donc ce soin particulier pour que, en fait, l'arrivée de ces prêtres venus d'ailleurs puisse être une réussite, et c'est le cas, disons-le. Donc rendons grâce, puisque c'est une messe d'action de grâce pour cette réussite pastorale. Nous sommes en ce moment en train d'assister à la communion dans cette cathédrale Notre-Dame de la Cède, dans ce cœur de la cathédrale où se trouve Mgr Nicolas Brouvet. Il est actuellement administrateur de ce diocèse.
Jusqu'à samedi prochain, jusqu'au 18 voilà. septembre, jusqu'à son installation sur le siège épiscopal, la cathédrale de Nîmes.
Parmi les actions aussi qu'on lui doit, c'est la revitalisation du Pélé de Bigorre. D'ailleurs, ce Pélé de Bigorre a lieu du 21 au 25 octobre prochain. Donc son attention à Lourdes était non seulement celle de l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, mais également celle de l'évêque du diocèse qui veut que son diocèse soit aussi en pèlerinage.
Eh oui, exactement. Toute la question était comment conduire les Bigourdans au pied de Notre-Dame de Lourdes, comment conduire le troupeau à la grotte de Massabielle, voilà.
Ouais. Et donc là, bon, il a mené une action extrêmement volontariste, hein, pour que les propositions soient multiples, que ce Pélée de Bigorre soit aussi accueillant à toutes les réalités, tous les âges, des marches, les familles, des aspects très festifs, bien sûr toujours une liturgie qu'il voulait tirer au cordeau, hein, c'était aussi un aspect très, très important pour lui, la vie liturgique au sein de ce 16. Donc ce Pélée de Bigorre, 21-25 octobre, bah, il aura lieu quand même.
Bien sûr, il aura lieu. Et j'allais dire même plus que jamais, parce que notre pasteur s'en va, mais il est essentiel que nous, Bigourdans, eh bien, on continue à se retrouver, à prier ensemble. Notre marche missionnaire ne s'arrête pas pour autant. Et puis, un évêque, eh bien, on va en accueillir à nouveau. On ne sait pas quand, mais c'est essentiel, au contraire, de se retrouver au mois d'octobre pour prier ensemble Notre-Dame de Lourdes, plus que jamais.
Donc si vous allez sur le site internet catholique65.fr, vous trouverez toutes les informations sur ce Pélée de la Bigorre du 21 au 25 octobre prochain à Lourdes avec la marche diocésaine. Bon, il y a cette année aussi, disons, un événement concomitant qu'il faut absolument intégrer, c'est le fait qu'il y a un jubilé, un grand jubilé dans ce diocèse.
Oui, c'est le jubilé de l'abbatiale de Saint-Pierre à Saint-Pé-de-Bigorre.
Oui.
1000 ans pour cette abbatiale. Voilà, donc le jubilé de Saint-Pé-de-Bigorre s'ouvrira le samedi 23 octobre lors de la marche diocésaine, hein, donc vraiment au cœur de notre pèlerinage diocésain. Cette marche diocésaine qui, ces dernières années, partait de Saint-Savin pour rejoindre Lourdes, eh bien cette année, à l'occasion du jubilé, nous partirons de Bétarame, nous passerons par Saint-Pé, où là nous vivrons une belle célébration d'ouverture du jubilé de Saint-Pé, avant de rejoindre Lourdes. Voilà, donc ce sont deux événements diocésains qui sont concomitants, comme vous dites, Mathias, et que nous pourrons vivre tous ensemble.
Vous ne venez de nous indiquer des lieux qui sont exceptionnels. Pour ceux qui sont avec nous en ce moment en direct, ce serait presque un programme de visite de notre Bigorre. Alors presque, parce qu'il y en aurait d'autres, mais Saint-Savin, c'est incontournable. Bétarame, c'est dans le diocèse voisin, mais tellement lié, tellement sur la frontière du diocèse de Tarbes-Lourdes. On a parlé de Saint-Pé. S'il est un lieu à visiter, c'est Saint-Pé. Alors pour plein de raisons, des raisons naturelles, parce que le lieu, du point de vue de ses richesses, du patrimoine naturel, est super. Est incroyable, et puis aussi un lieu d'église important, là où on a formé des générations de prêtres, puisque c'était le lieu du petit séminaire.
Exactement, donc l'abbatiale fête ses 1000 ans, et puis juste à côté, le petit séminaire fête ses 200 ans, donc c'est aussi un jubilé pour le petit séminaire.
Bon, qui est fermé depuis quelques années.
Qui est fermé, et qui appartient désormais à une communauté maronite, mais beaucoup de nos prêtres diocésains ont été formés au petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre. Donc c'est un peu le mémorial de nos prêtres diocésains aussi que nous célébrerons au mois d'octobre.
Voilà, c'est un diocèse qui dit merci à son évêque, qui a été évêque ici pendant 9 ans et dont on voit que l'action pastorale qui n'a pas toujours été simple, dans des circonstances très, très simples, faut dire les choses telles qu'elles sont, est quand même aujourd'hui magnifique telle qu'on la regarde, avec ses fruits, avec tout cela, toutes ces réalités dont il a su tenir compte, Monseigneur Brouvert, dans ses choix. Et alors il y a un autre aspect, une autre dimension qui est importante, voire fondamentale pour lui, c'est la transmission de la foi, mais ça c'est pour tout croyant. Mais lui, comme plutôt évêque qui enseignait, qui éclairait sur la foi, d'abord au cœur de sa démarche, bien sûr, l'évangile, la lectio divina,
la lectio divina, oui.
24 heures pour Dieu, et puis toutes ces catéchèses. Moi, je renvoie les uns et les autres à la lecture de ces catéchèses sur la foi, sur la politique,
la parole
de Dieu. Il en a écrit au moins 6 ou 7.
6, plus des orientations pastorales.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, plus une vision missionnaire pour le diocèse.
Donc l'évêque qui transmet, l'évêque qui enseigne. Ça, c'était important pour lui.
Oui, effectivement. Oui. Et en passant toujours par les familles et par les écoles catholiques aussi, ne l'oublions pas.
Oui. Nous sommes donc ensemble pour cette messe d'action de grâce. La communion est dorénavant terminée. Et maintenant, chacun est dans le recueillement, ici à Tarbes, pour qu'on puisse vivre pleinement ce temps de merci, d'action de grâce. Sans grands mots, hein, vous l'avez remarqué, il ne s'agit pas de se répandre en grands discours dithyrambiques. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le ton. Ce n'est d'ailleurs pas le ton du tout de Mgr Nicolas Brouvet.
Dans son ton, c'est plutôt la prière.
Et une vraie sobriété. Et donc, nous sommes dans cette sobriété. Nous l'accompagnons, encore une fois, en direct de Tarbes, dans cette cathédrale. Et bientôt, et dès cet après-midi, il quitte ce diocèse pour aller à Nîmes.
Nous invitons le vendredi 24 septembre tous les couples pour une soirée de jeux. Nous allons jouer ensemble, des jeux de société. Vous voyez, l'idée c'est que nous puissions prendre du temps fraternel ensemble et que les couples aussi puissent se connaître et se soutenir dans leur mission. Il y aura un petit temps de prière à la fin, mais l'idée c'est vraiment de créer des liens, donc ça va depuis les fiancés jusqu'à ceux qui, voilà, qui cheminent, que nous puissions vivre cette soirée ensemble. Il y a des tracts bleus comme ça à l'entrée de nos églises. Vous pouvez inviter des amis qui n'ont pas la foi, hein, pour jouer ensemble. Eh bien, il suffit juste de se retrouver. Nous rappelons aussi le week-end des étudiants dans la vallée du Louron, les 25 et 26 septembre. Ça sera l'occasion de faire connaissance et de découvrir la beauté de nos Pyrénées. Inscrivez-vous maintenant.
Cette semaine aussi, je vous rappelle, parmi les grandes dates, les grandes fêtes, cette semaine nous aurons la fête de la Croix Glorieuse, le 14, grande fête de l'Église, et puis Notre-Dame des Douleurs, le 15. Voilà, un dernier petit mot, Monseigneur, pour vous dire un trop bref mais sincère merci pour tout ce que vous avez donné, semé dans notre diocèse, au sanctuaire de Lourdes, ici tout particulièrement dans notre paroisse de la cathédrale. Merci d'avoir été un vrai pasteur pour chacun de nous. Voilà, en tant que prêtre, en tant que diacre, servant, fidèle, couple, merci pour tout ce que vous avez pu donner. Nous vous accompagnons bien sûr de notre prière. Et nous vous souhaitons, voilà, que le vent de l'esprit, puisque c'est votre diocèse, votre devise, vous accompagne toujours, tous les jours de votre ministère. Merci encore.
Ensemble, prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci, Père, pour vos paroles. Merci aussi à chacun, chacune d'entre vous. Merci à tous ceux qui, alors aux paroissiens de la cathédrale, mais à ceux aussi qui sont venus de tous les coins du diocèse aujourd'hui. Voilà, vraiment, je pars avec, vraiment, comme je vous le disais, beaucoup de joie et d'action de grâce dans mon cœur. Merci à la fraternité, encore une fois. J'aurais dire un merci à mon vicaire général, le père Pierre Jamais, parce que vous savez... Un évêque, alors je disais un évêque, il est rien sans évidemment le peuple du diocèse, mais il n'est pas grand chose sans son vicaire général. Et il faut qu'il y ait vraiment une collaboration, une amitié, presque une complicité, tout en étant assez différent. Mais merci pour la manière dont vous avez collaboré avec moi, fidèlement, loyalement. Et puis ce merci, comme je l'ai fait hier, je l'étends à tous les prêtres, tous les diacres du diocèse qui sont mes premiers collaborateurs, qui sont vos pasteurs aussi. Et je crois qu'on ne se rend pas compte combien on a la chance d'avoir des prêtres. Si on s'en rend compte le jour où on n'en a plus, et on se dit, mais où est-ce qu'ils sont? En fait, on en a tellement besoin. Et alors, voilà, rendons grâce pour nos prêtres aussi, encouragez-les, soyez proches d'eux, y compris pour faire des jeux. C'est bien cette initiative de jeu, voilà, pour que les prêtres sachent qu'ils peuvent compter sur vous. Je voulais dire aussi que tout à l'heure j'ai parlé de la cathédrale, de tout ce que nous avons vécu, et je voudrais dire un merci à notre ABF, à notre architecte des bâtiments de France, parce que c'est aussi, l'État prend soin de notre cathédrale. Voilà, l'État prend soin, il y a encore des travaux là, et ça veut dire que l'État est derrière et nous permet de vivre dans un lieu qui est beau, que nous adoptons peu à peu, au fur et à mesure que les dimanches passent. Voilà, mais merci, je crois que Jeannine Colonel doit pas être loin, et je la remercie vraiment pour ce qu'elle a fait au nom de l'État dans notre diocèse. Alors, vous savez que un jour ou l'autre, vous allez recevoir un nouvel évêque. Donc, on va demander la grâce au Seigneur de le recevoir dans la foi, dans la paix, comme celui que le Seigneur nous envoie. Vous avez une petite prière et que vous pouvez prier tous les jours, le temps que le pape nomme un nouvel évêque pour notre diocèse. On va donc prier cette prière ensemble. Dieu, notre Père, ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer l'Évangile. Nous t'en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur qui, au milieu de nous, prêchera l'Évangile du salut, assurera le service de la communion et nous encouragera dans notre mission. Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l'Esprit Saint choisira comme évêque de Tarbes et Lourdes. Nous te le demandons par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, de Saint Savin et de Sainte Bernadette. Amen. Je vous donne vraiment la bénédiction du Seigneur en demandant qu'il vous bénisse. Je demande qu'il vous fortifie vraiment dans votre vocation, les uns et les autres. Et cette bénédiction, je l'étends, si je ne sais pas si j'en ai le pouvoir, mais en tout cas, je la dis à tous les auditeurs de Radio Présence, à tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on dira l'Angélus, voilà, pour être vraiment avec Marie. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que le nom du Seigneur soit béni.
Maintenant et toujours.
Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Qui a fait le ciel et la terre.
Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Et le Verbe s'est fait chair.
Et la demeure est parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions, répands s'il te plaît, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le ministère de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur.
Amen.
soleil, couronné d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons.
Forcément de l'émotion dans le moment que nous vivons, parce que Monseigneur Brouvet quitte ce diocèse et beaucoup nous nous sommes attachés à lui, évidemment. Il n'y a pas que le pasteur, il y a aussi bien sûr l'affection qu'on a vis-à-vis d'un homme qui était très très sympathique dans le quotidien, dans la vie privée, vraiment.
Qui a été proche des diocésains.
Oui, oui, oui. Très très proche. Donc Anne-Rose, pour terminer cette retransmission, cette messe d'action de grâce en direct de la cathédrale de Tarbes, il y a quand même quelques petits rendez-vous peut-être à rappeler.
Eh bien oui, écoutez Mathias, je vous donne rendez-vous dès cet après-midi. Tenez, si vous ne savez pas où aller, dans quel coin du diocèse aller vous recueillir et prier, allez donc au sanctuaire Notre-Dame de Garaison, dans le Magnoac, pèlerinage du couronnement qui a lieu aujourd'hui à 15h. La messe sera célébrée par le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, le père Olivier Ribadeau-Dumas. Donc à 15h au sanctuaire de Garaison cet après-midi.
C'est un sanctuaire où il y a eu des apparitions de la Vierge Marie il y a plus de 500 ans, hein, un magnifique sanctuaire s'il en est, qui préfigure tout ce qu'on a vécu à Lourdes ensuite. Voilà.
Et puis le congrès mission, Mathias, 1er, 2 et 3 octobre, congrès mission à Toulouse, aucune excuse pour ne pas vous y rendre. Amis Bigourdan, le diocèse de Tarbes et Lourdes a tout organisé pour que vous soyez déchargés des soucis logistiques, le transport, l'hébergement, les repas. Rendez-vous à Toulouse pour ce congrès mission, un moment très très fort, très intense dans notre année pastorale, 1er, 2 et 3 octobre. Et puis ensuite, on se retrouve au pèlerinage de la Bigorre, Mathias.
Voilà, exactement, du 21 au 25 octobre. Voilà, rendez-vous le 21 au 25 octobre pour ce grand pèlerinage de la Bigorre. Tout le programme est détaillé hein, sur le site internet diocésain.
Voilà, ouais. Et dans le bulletin diocésain est sorti hier dans les paroisses. Et puis, rendez-vous donc à Lourdes, au sanctuaire ou via Radio Présence.
Merci à tous pour votre attention, merci à ceux qui nous ont permis cette retransmission, je pense à Christophe hein, qui est à Toulouse en régie, je pense à la régie aussi qui se trouve à Lourdes, merci à vous Anne-Rose Jankovic.
Merci Mathias Terrier.
À tous, bon dimanche, au revoir, à bientôt.